Vous êtes sur 106.8, Radio Grand Ciel, Pays de Chartres. L'Or des Curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. Ingénieur du son, Simon Martin. Un grand bonjour à vous tous. Peut-être avez-vous noté de ma part une certaine propension à la bougeotte dans mes émissions. Un jour le Japon, un autre le Canada, l'Irlande, la Norvège. Pour aujourd'hui, j'ai placé la barre au plus haut que je le pourrai jamais, puisque non seulement je vous entraîne à travers le cosmos, mais plus encore sur une planète interdite. Pas de panique, vous verrez, le robot est un ami, nos hôtes ont d'excellentes manières. La nature y est un peu spéciale, j'en conviens, mais quand on a vu Paris comme on le voit ces temps-ci dans son joli petit nuage rose, ou jaune, ou vert, ou brunâtre. Ça n'est rien qui nous soit inconcevable. Quant aux ennemis que nous y trouverons, ils seront assez inoffensifs, même assez attendrissants parfois. L'Or des Curieux, n'était-ce pas autrefois une émission musicale, vous dites-vous ? Alors que faisons-nous dans ce cosmos de carton-pâte ? Nous y venons passer un moment avec deux musiciens, mari et femme, et compositeurs de la musique de ce petit bijou de science-fiction que fut ce film de Fred MacLeod Wilcox, sorti en 1956, il y a donc un peu plus de 60 ans. Une paille pour nos hôtes qui ne connaissent que les années-lumière. Bienvenue dans le module, donc. Le dernier ferme la porte. Voyons un peu. Appuyons sur un bouton au hasard. Gagné. Je ne sais pas trop vers où nous sommes lancés. Le Seigneur nous vienne en aide. Un grand bonjour à vous tous pour notre 8e émission. Aujourd'hui, L'Or des Curieux et Radio Grand Ciel sont dans l'espace. Elle a de courtes et belles boucles brunes, tout le tour d'un fin visage en amande, mademoiselle Charlotte Maywind. Et cela fait une certaine impression sur le campus de l'Université du Minnesota, où elle étudie, et brillamment, les sciences politiques, et d'où elle sortira master en poche, sans jamais forcer son talent. Et musicienne superlative avec cela. Pour l'heure, elle suit les classes de piano du grand Rockaway Cordero, Maestro Cordero, ancien élève d'Ernest Krenek pour la composition et de Dimitri Mitropoulos pour la direction. Il deviendra directeur de l'Institut de musique, directeur artistique et chef du National Symphonique du Panama. Immense carrière de chef d'orchestre international et de compositeur. C'est qu'elle sait choisir ses relations aussi bien que ses mentors, Miss Charlotte Maywind, et fait montre de hautes ambitions, de belles exigences envers elle-même. Un jour, dans Minneapolis, elle fera la connaissance de Louis Baron, musicien comme elle, et d'un caractère entier, passionné. Il est aussi un critique très respecté dans les revues de jazz auxquelles il prête sa plume. Le jeune homme est par ailleurs passionné, que dis-je, raide dingue, fondu au noir d'électronique et d'une science alors débutante, la cybernétique. Rencontre entre les deux, donc, étincelle, unisson. Si vous voulez mon avis, le cher Mendelssohn et sa marche nuptiale ne seront pas longs à se faire entendre. 1947. Les jeunes mariés vivent à New York. Conjointement à sa vie musicienne, Louis travaille dans l'électronique. Et Charlotte, que l'on n'appelle plus ainsi d'ailleurs, mais bébé, Louis ayant pris l'habitude de la nommer ainsi, elle décide d'elle-même alors qu'elle ne s'appellera plus que bébé Baron. Adieu donc Charlotte Maywind. Bébé suit donc les cours de composition d'Henry Cowell. Henry Cowell, fût-ce que l'on peut nommer, même s'il faut un usage prudent, est toujours pertinent de ce mot, un génie de musique. Compositeur souvent très surprenant, créant une matière sonore étonnamment souple, mouvante, réactive, vivante en un mot. Il connut également, on se doit de le rappeler, un martyr vivant, incarcéré 15 ans au bagne de Saint-Quentin, le plus terrible, là même où ont fini les Al Capone et autres. Lui ne s'y trouvait que pour avoir été bisexuel, rien d'autre. Il a su, malgré cela, faire toujours parler plus haut son amour de la musique, et on lui doit nombre de trouvailles techniques, tels le cluster, effet destiné au piano, et que le grand Béla Bartok utilisera intensément dans sa musique de piano. Non sans être venu visiter Cowell auparavant pour lui demander son autorisation de le faire. Fut un temps lointain où l'on était musicien sans être forcément un cuistre. Bébé écrivait également pour le groupe de presse Time Life. Pour leur mariage, au milieu des cadeaux qui leur furent faits, ils trouvèrent un magnétophone à bande de chez Ige Farben. Cadeau littéralement sans prix pour l'époque, il ne devait en exister tout au plus que 3 ou 4 aux États-Unis. Où l'on verra qu'un cadeau de mariage peut bouleverser toute une vie. 1949, direction Monterey, Californie, la côte ouest, la rive ensoleillée. Ils rencontrent Anaïs Nin, auront l'idée d'enregistrer ce qu'ils nommeront des portraits sonores, sound portraits, portraits d'écrivains, lisant leurs œuvres. Anaïs Nin, donc, mais aussi Henry Miller, Aldous Huxley, Tennessee Williams. Les disques seront commercialisés mais ne connaîtront qu'un échec retentissant. 1950, tout le monde revient à New York City, Greenwich Village. Louis, sous l'influence du mathématicien Norbert Wiener, l'un des pères de la cybernétique, décide de construire chez eux un studio d'enregistrement voué à l'électronique, aux explorations sonores et à la post-production, au mixage, à la finalisation des œuvres. Ainsi naîtra le premier studio d'enregistrement de l'ère moderne, le même sensiblement que ceux que fréquentent aujourd'hui tous les artistes du monde. L'endroit sera très et très brillamment fréquenté. Il recevra les visites par exemple de Jackson Pollock ou Marlon Brando. Louis et Bébé Baron deviendront le trait d'union entre artistes de la côte ouest et ceux de la côte est. Louis Baron sera le tout premier compositeur sur le sol américain à finaliser une œuvre de musique électronique. L'œuvre en question s'intitulera « Heavenly Menagerie », littéralement « La ménagerie des cieux ». 4 minutes 20 de musique qui nécessitera presque 5 ans d'un travail constant et épuisant. Épuisant parce que le principe était alors de créer des fragments enregistrés de sons émis par les circuits électroniques que fabriquait Louis, puis de les transférer sur un master. Ces échantillons pouvaient être très courts. La durée de vie d'un circuit à l'époque était dérisoire, quelques secondes. Sitôt activé, il se mettait à chauffer et mourait presque immédiatement. Il fallait donc tout enregistrer, ne rien manquer, ne rien perdre. Les échantillons étaient assemblés, donc littéralement collés les uns aux autres, physiquement, par adhésif. Procédé qui prenait un temps infini. On a gardé depuis l'expression qu'ils utilisaient, travailler en pas à pas. Lorsque le montage était fait, il fallait encore soumettre le tout à toutes sortes de traitements sonores. On ralentissait ou accélérer la vitesse de défilement d'un passage. Parfois, l'on créait des séquences où la bande défilait à l'envers. Procédé qui sera repris bien des années plus tard par les Beatles dans leur Sgt. Pepper's Hard Club Band. Que vous aimiez ou non les Beatles, cet album était, est et demeurera un pur chef-d'œuvre. L'inventivité y est constante. Tout y est à la fois abouti et d'une fraîcheur irrésistible. Les époux Baron utiliseront également beaucoup un prototype de réverbération à ressort qui fera école et se retrouvera sur tous les amplificateurs de guitare. Et un modulateur en anneau, ou ring modulator. Je vais tenter de vous expliquer ça. J'ai le don de tout compliquer. Quand j'explique, on comprend encore moins. Enfin, je vais tenter. C'est un type de modulation qui a pour base un oscillateur qui délivrera une onde sinusoïdale que l'on confrontera alors à une source. Ce sera un clavier électrique, une guitare électrique, ce qu'on veut. L'effet immédiat sera la création d'harmoniques nouvelles. On peut également, par ce moyen, dédoubler les octaves, faire sonner des quintes ou septièmes fantômes que l'on fera muter en effet dit chorus en les rendant approximatives, créant alors un effet de mouvement circulaire ou un ressenti proche du glockenspiel ou d'un carillon un peu surnaturel. Tous les effets utilisés par le couple Baron sont encore utilisés aujourd'hui, seul à changer l'emballage ou l'allure extérieure des choses. Fin 1955, Louis et Bébé se rendent à un vernissage dans Manhattan. Une amie peintre y présente sa première exposition. Lors de la soirée, ils font la connaissance du mari de celle-ci. Il œuvre dans le cinéma et travaille à la post-production d'un film de science-fiction appelé « La planète interdite ». Il se trouve captivé par l'histoire de Louis et Bébé Baron et décide dans un premier temps qu'ils vont faire les bruitages de tout le film, le son des objets, des moteurs, des machines venues d'ailleurs, bref, de toute la vie extraterrestre, et qu'on pourra ensuite ajouter leur sonorité à une musique que l'on demandera à un compositeur plus conventionnel. Les Barons se mettent à la tâche immédiatement, et le producteur voit les premiers résultats et comprend très vite qu'ils seront irremplaçables pour la bande-son entière du film. À l'époque, aucun film n'a utilisé encore la musique électronique, et le staff du film aura l'intelligence de savoir oser s'aventurer en territoire vierge et inconnu encore. Et puis n'était-ce pas là le propos même de leur film ? Ils fourniront un travail titanesque. Je vous ai expliqué la lenteur forcée de leur mode de création. Pour ce film, ils se divisent alors clairement la tâche. Louis sera le cœur de la question technique, créant les circuits, donc les sonorités. Et Bébé sera en charge de la composition proprement dite, c'est-à-dire l'assemblage artistique des données fournies par Louis. Ils sont ici au cœur du principe d'Edgar Varèse, qui disait que la musique est du son organisé. Varèse qui sera, avec John Cage, un visiteur et utilisateur fréquent du studio des Barons. Louis et Bébé Baron seront d'ailleurs longtemps les assistants techniques d'Edgar Varèse. Thank you. Jusqu'alors, les films qui ciblaient le cosmos le faisaient sur des musiques plutôt convenues et grandiloquentes, assez proches de celles des films d'aventure, de western ou de pirates. Et il semble qu'à Hollywood, ce soit cette manière pompiériste qui ait prévalu, et il est permis de le regretter. À titre personnel, mon cœur penche nettement en faveur des époux Baron ou d'un Édouard Artemiev, qui saura se montrer à la hauteur du chef-d'œuvre avec l'immense Andrei Tarkovski et son Solaris, classique de l'anticipation et du cinéma tout court, un pur éblouissement. Le travail de Louis et Bébé Baron pour La Planète Interdite, d'exténuant qu'il était, sera rendu plus problématique encore par le refus de la Guilde des musiciens américains de reconnaître leur travail comme de la musique. En effet, ils ne seront pas en mesure de fournir une partition pour leur œuvre. Comment noter cette création, d'ailleurs ? C'était impossible. Pierre Boulez sera le premier à être écouté et pris en considération lorsque, dans ses écrits, il pointera la probable caducité de la notation classique en musique. Des durées, des densités, de leurs variations, de la définition même de ce qui a parfois purement et simplement remplacé ce que l'on nommait une note, rien de tout cela n'est exprimable par la notation classique. Nous sommes alors en 1956, aux États-Unis, et la musique contemporaine se voit infliger une fin de non-recevoir terrible. L'Académie des Oscars refusera à Louis et Bébé Baron la distinction qui leur revenait. On peut largement survivre à cela, mais il faudra encore que Louis et Bébé conduisent une lutte épuisante pour voir reconnu leur pur et simple droit d'auteur pour cette œuvre. Et là encore, l'issue sera bien terne, la récolte maigre. Suite à La Planète Interdite, les époux Baron continueront à œuvrer pour le cinéma. Bon nombre de courts-métrages, de films expérimentaux, de documentaires, dont l'un traitait de la musique du monde à venir. Ils resteront actifs, donc, et continueront de travailler ensemble, même si leur vie éreintante et les complications qu'elle connut les conduiront bien malheureusement au divorce. Louis Baron décédera à la fin de 1989. Bébé Baron ne fera plus rien paraître jusqu'à l'an 2000, où sortira à la surprise générale une perle signée Bébé Baron. Toute sa vie avec Louis s'y trouve, aussi cet œil constamment gardé vif sur le présent et le futur. Musique vitale, primale et précieuse, aussi naturelle et aussi grande que la sensation d'avoir sous la main la preuve d'un cœur qui bat et bat encore. Bébé Baron, en l'an de grâce 2000, Mixed Emotions.
Thank you.
Bébé Baron quittera ce monde en 2009. Une vie humaine, c'est bien plus de richesse, de beauté et de souffrance aussi que ne saurait en contenir un livre, un film, une émission de radio. Aussi n'ai-je pas la moindre prétention à avoir fait le tour de Louis et Bébé Baron. J'espère simplement que ces quelques bribes auront su éveiller votre intérêt et votre curiosité. Ainsi se clôt ce 7e volume de L'Or des Curieux. Voyez, si vous le pouvez, ce beau film de Fred MacLeod Wilcox, millésime 1956, La planète interdite, et puissiez-vous en discerner les mérites et beautés qui ne sont pas moindres. L'ingénieur du son en chef, Simon Martin, et moi-même regagnons notre capsule direction la Terre. Ou ailleurs, qui sait. Retrouvons-nous le mois prochain sur cette même antenne, au 106.8. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt donc. Au revoir.